culture d'islam par Abdennour Bidar. Né le 18 octobre 1953 à Paris, dans le 11e arrondissement, d'une mère suisse-allemande et d'un père alsacien, Julien Jalaleddin Weiss est l'un des rares Européens qui se soit totalement dévoué à la musique de l'Orient. Nous lui consacrons aujourd'hui ce numéro de Culture d'Islam, une émission un peu particulière, donc une émission d'hommage, dans laquelle il nous sera donné d'écouter, de savourer et de commenter avec mes deux invités du jour, que je vous présente dans un instant, la musique de Julien Jalaleddin Weiss et de son ensemble Al-Kindi, un ensemble dont il fut le fondateur et le directeur. Jalaleddin Weiss s'est éteint le vendredi 2 janvier 2015 à 15h à Paris, des suites d'un long et douloureux concert à l'âge de 61 ans. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage dans cette émission spéciale, dans ce numéro spécial de Culture d'Islam. France Culture, Culture d'Islam aujourd'hui, un numéro spécial consacré au parcours, à l'itinéraire, à la musique, à la mémoire également de Julien Jalaleddin Weiss, fondateur et directeur de l'ensemble Al-Kindi. On va préciser, on va dire de quoi il s'agit dans un instant. Je reçois aujourd'hui pour nous parler de ce grand musicien. Tout d'abord, eh bien, Sabine Châtel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous avez été la productrice et la manageuse de l'ensemble Al-Kindi, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Et puis, vos activités de manageuse ne se limitent pas à ça, j'imagine ?
Non, alors moi je travaille, donc j'ai une société de production qui s'appelle Zamzama Productions, et donc je travaille et je représente d'autres artistes avec une, vraiment une direction vers ce qu'on appelle les musiques du monde. Donc c'est vrai qu'à travers l'ensemble Al-Kindi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur la musique du monde arabe, mais je vais sur d'autres destinations aussi. Quoi.
Oui, on entend souvent cette désignation musique du monde, oui. Musique sacrée également, c'est un peu indéterminé. Comment est-ce qu'on fait pour préciser
de quoi
il s'agit ?
La musique du monde, c'est pas très heureux comme dénomination, parce qu'en effet, un artiste musique du monde, quand il est chez lui, il n'est pas musique du monde. C'est juste un artiste tout court. Et, ouais. Et c'est dès qu'il s'exporte qu'il devient musique du monde. Charles Aznavour à New York est musique du monde. Mais voilà, donc, bon, c'est, on va dire que c'est tout ce qui n'est pas français et surtout qui ne parle pas. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je les détermine. C'est plutôt ce qui ne s'exprime pas en français et ni en anglais. Et voilà, c'est
tout ce qui n'est pas issu du fond de la culture musicale occidentale classique.
Oui, mais après, les musiques pop traditionnelles françaises peuvent être aussi des musiques du monde. En fait, c'est tout ce qui est tout ce qui n'est pas ce qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire vraiment variété. Voilà. Mais
bon, mais bonne nouvelle, on fait tous partie du monde.
Hein, mais donc, bien sûr, voilà. Mais c'est surtout ça.
C'est ça qui est important. Voilà. Et alors, mon second invité du jour. Bonjour. Gérard Kurdjian.
Bonjour.
Alors vous avez été pendant une quinzaine d'années, je crois, le directeur artistique du Festival des Musiques Sacrées, justement, on y revient, de Fès, au Maroc. Vous êtes, qu'est-ce que c'est justement les musiques sacrées ?
Les musiques sacrées, ce sont les musiques qui sont traditionnellement reliées aux grands courants religieux et spirituels du monde. Christianisme, islam, judaïsme, hindouisme, bouddhisme, et puis elle se manifeste sous des formes diverses, sous des formes liturgiques, paraliturgiques, et au-delà de ça, on peut élargir le champ de la perception des musiques sacrées en englobant à l'intérieur de cela les musiques savantes qui ont une forte dimension d'intériorité, comme les musiques classiques du monde arabe, du monde indien, du monde chinois, du monde japonais, etc.
Voilà, donc on parle de musiques qui ont toujours, au moins selon leur définition de départ, pour vocation d'accompagner des moments spirituels et de mettre l'auditeur dans une certaine disposition intérieure.
De susciter un état d'intériorité, d'ouverture à des réalités qui sont des réalités soit religieuses, soit au-delà même du religieux, des réalités d'ordre spirituel.
Alors, vous avez été, je l'ai dit, directeur artistique du Festival des Musiques Sacrées de Fès. Vous êtes spécialiste des musiques sacrées du monde et je crois que sur le thème, vous préparez une somme, non pas une somme théologique, mais une somme musicale, une anthologie. De quoi s'agit-il ?
Oui, c'est un gros livre sur lequel je travaille depuis deux ans et demi et qui est un peu l'aboutissement de 25 ans d'expérience, à la fois de programmation et de réflexion et de recherche. Et donc oui, je suis très très heureux d'avoir écrit ce livre qui paraîtra donc en mai prochain chez Albin Michel et qui est un panorama non exhaustif, c'est pas l'Encyclopédia Universalis, mais 19 grandes traditions du monde sont répertoriées dans ce livre qui va s'appeler « Le grand livre des musiques sacrées ». Rien que cela.
Rien que cela, et voilà. Donc, Sabine Châtel, j'ai dit que vous aviez été productrice et manager de l'ensemble Al-Kindi. Gérard Kurdjian, de votre côté, la rencontre avec la personne et l'œuvre de Julien Jalaldine Weiss s'est faite comment ? Peut-être dans le cadre du Festival de Fès, entre autres.
Non, c'est beaucoup plus ancien que ça. Moi, j'ai connu Julien dans les années 70. La première fois que je l'ai vu, il donnait un concert de guitare au Centre américain du boulevard Raspail, qui est un lieu qui n'existe plus, mais qui était un grand lieu culturel des années 70. Oui. Et ensuite, je l'ai invité, j'ai retrouvé sa trace, parce qu'évidemment, chacun suit sa route. J'ai retrouvé sa trace à l'occasion d'une invitation que je lui avais faite de l'ensemble Al-Kindi avec la danseuse Leila Haddad, qui dansait la danse de Salomé, la danse des sept voiles, et je l'avais invité dans la fin des années 80 dans un festival que j'organisais à Nice qui s'appelait Africasia. Et à partir de là, lorsque le festival de Fès est né en 1994, puisque j'étais dès le départ à la direction artistique de ce festival, bien évidemment, je l'ai invité à plusieurs reprises au Festival des Musiques Sacrées, et là, on a eu l'occasion de redynamiser, de réenrichir notre vieille relation, et c'est à cette occasion que donc on a tissé des liens non seulement d'amitié, mais aussi de création musicale, puisque à Fès, Julien a créé des œuvres, et c'est important que...
On va en parler de cette dimension de création. Une dernière précision, donc vos activités de directeur artistique de différents festivals continuent. Je crois que vous avez un très gros projet au Rajasthan, bientôt.
Oui, c'est un festival qui va naître en février. et qui sera un gros festival à Udaipur, un festival de musique du monde, world music, mais qui va rassembler à la fois des grands musiciens indiens, des musiciens internationaux, des musiciens de tradition spirituelle, des musiciens de tradition world music. Ça va être un grand brassage. Dans lequel d'ailleurs Julien Weiss aurait eu largement sa place avec son ensemble Al-Kindi.
Oui, donc Sabine Châtel, vous avez été la manageuse de l'ensemble Al-Kindi, alors c'est une aventure de combien d'années ça?
20 ans.
20 ans,
oui.
C'est-à-dire que dès le départ, vous étiez la productrice de l'ensemble?
Non, en fait, moi je l'ai rencontrée parce que j'ai commencé à travailler dans une agence à l'époque qui faisait en effet déjà des musiques du monde. Oui. Donc c'était en 92, en janvier 92 très exactement. Et en fait, parmi les artistes dont on s'occupait, il y avait l'ensemble Al-Kindi, voilà. Et moi, la rencontre s'est fait comme ça, mais sans du tout connaître Julien. Et puis, bon, petit à petit, on a commencé. Et puis là-dessus, bon, j'ai quitté cette société. J'ai continué à travailler avec l'ensemble. Oui. Et voilà. Et puis, quelques années plus tard, en 2000, j'ai créé ma société. Et j'ai continué aussi. Enfin, voilà. Donc, le travail avec l'ensemble Al-Kindi ne s'est jamais arrêté depuis janvier 92 jusqu'à la mort de Julien l'année dernière.
Oui. Alors, même si c'était un artiste extrêmement connu, mondialement connu et reconnu, je pense qu'il n'est pas inutile pour nos auditeurs de le situer un peu de qui nous parlons aujourd'hui. Donc Julien Jalaluddin Weiss, je dis Jalaluddin parce qu'il s'était converti à l'islam.
Oui, c'était converti à l'islam parce que je pense que chez Julien, il y avait une attirance vers l'Orient en tant que tel, déjà l'Orient un petit peu mythique, mais cette attirance mythique qui existe chez beaucoup d'artistes et chez beaucoup d'êtres humains en général, s'est concrétisée par la pratique musicale. Et c'est ça que je trouve très intéressant parce que lorsqu'on ancre une attirance intérieure dans un travail concret, une expérience quotidienne, et on pénètre de manière extrêmement concrète dans une réalité qui est une réalité culturelle.
Et en donc, l'occurrence, dans l'univers culturel et spirituel
de la musique savante
de la
arabe,
musique savante arabe,
la tradition du maqam, la tradition des modes, et cette attirance qui s'est d'abord concrétisée par une sorte de d'éblouissement qu'il a eu en écoutant le grand luthiste Mounir Bachir, puisque Julien a commencé son travail musical par la guitare classique.
Oui, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire, il a une formation d'abord de guitariste classique. Ici, c'était à Paris.
Il a fait l'école normale de musique, en fait. Il a fait, donc il avait une vraie formation vraiment classique occidentale.
D'accord. Ça, c'est au début des années 70, à peu près.
Oui, bah, il est né en 53, donc il a dû...
C'est dans les
années 70. Oui, exactement.
D'accord.
Et en fait, il était totalement passionné. De toute façon... Julien est un musicien avant tout et c'est un artiste, voilà, quel que soit, enfin je veux dire, toute sa vie aurait été dans la musique. Donc il était en effet passionné par la guitare, il dit qu'il en jouait 12 à 15 heures par jour, que c'était une ascèse totale pour lui, enfin que c'était quelque chose de... Et puis il a commencé à voyager un petit peu, il est allé au Maroc, il a vécu des expériences comme ça, il est parti aux Antilles, enfin bon, il a erré un peu pendant son adolescence et post-adolescence, toujours avec la guitare qu'il accompagnait partout. Et puis bon, il avait abandonné, je pense, ses études au conservatoire. Mais il était toujours imprégné par ça.
Et il y a eu donc la rencontre de l'Orient en deux temps décisifs. D'abord, cette rencontre, Gérard Kurdjian, que vous évoquez avec Mounir Bachir.
Oui,
c'est ça. Hein,
Mounir Bachir, ça, c'est une rencontre décisive.
Le grand maître du Oud.
Mounir Bachir est connu sous le nom de l'empereur du Oud. Musicien irakien qui habitait Bagdad, qui a d'ailleurs occupé des fonctions officielles, puisqu'il était une sorte de ministre de la culture bis à Bagdad. Et Mounir Bachir, qui a été le maître de Julien Weiss pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il joue avec lui et qu'il compose pour lui dans le premier disque de l'ensemble Al-Kindi, qui est paru donc dans les années 80. Il y a une pièce qui s'appelle Suite bagdadienne, qui est une wasla, une suite musicale. La wasla, c'est une suite de morceaux qui s'embriquent les uns dans les autres et que Julien a dédié à son maître, Mounir Bachir. Mmh. Mounir Bachir, qui le reconnaissait lui-même comme étant l'un des rares Européens, des très rares, uniques dans l'histoire de la musique. Je parle donc au niveau de siècles, à avoir atteint ce degré d'excellence dans la pratique d'une musique qui n'était pas la sienne au départ.
À s'être approprié, donc quelque chose qui, a priori, était très très loin de son propre bassin culturel. Rappelons qu'il était, donc, je l'ai dit au départ, de mère suisse-allemande et de père alsacien, c'est ça?
Oui, oui.
Mais je préciserai que... au-delà de ça, plus que se l'approprier, oui. Il est devenu l'égal des plus grands. Parce que j'ai une expérience particulière du rapport à la musique indienne, que j'ai travaillé un petit peu. Mais il n'y a aucun équivalent dans la musique indienne, la musique japonaise, la musique chinoise, d'un occidental qui soit arrivé au point d'arriver à ce degré de maîtrise où il peut jouer avec des maîtres.
D'égal à
et
égal,
composer avec des maîtres. Et diriger des maîtres.
Oui. Donc Sabine Châtel, cette virtuosité, parce que c'est le mot qu'il faut employer, a été reconnu justement et a fait de lui un maître de la sitar orientale, hein, c'est-à-dire du kanun. C'est comme ça qu'il était considéré, effectivement.
Oui, oui, c'est comme ça qu'il était considéré. C'est-à-dire, en effet, je crois que le challenge que s'était donné Julien, c'était déjà de devenir un parce qu'en fait, il avait un désir d'excellence dans tout ce qu'il faisait de toute façon. Donc, s'il s'approprie un instrument, et en fait, ce qui est intéressant, c'est guitariste classique. Le choix évident et le choix le plus facile pour lui, c'était de jouer du oud. Et en fait, il s'est rendu compte que de jouer du oud était trop facile, parce qu'avec la dextérité et la virtuosité d'un guitariste classique, très très vite, il pouvait aller vers des choses très virtuoses, mais qui l'empêchaient de pénétrer véritablement la musique arabe.
Donc à ce moment-là, il arrête
le oud.
Et donc
en fait, il a arrêté le oud. Donc il a eu une très courte expérience là-dessus, oui. Et en fait, il a arrêté et il a décidé de choisir le kanoun, qui est vraiment considéré comme l'instrument le plus difficile en musique arabe, parce que du coup, il est obligé de redémarrer comme un débutant et du coup d'avoir un vrai apprentissage de l'intérieur de cette musique.
Donc il est allé chercher vraiment la difficulté.
La difficulté, parce qu'en fait, au kanoun, on joue avec 2 doigts et non plus avec 10 doigts. Et donc il disait, moi je suis un débutant, j'ai démarré à 20 ans, alors que d'autres joueurs de kanoun, en effet, démarrent à 4 ans, à 5 ans. Donc c'était pour lui
un vrai challenge
de repartir à zéro sur cette musique-là. Mais c'était comme ça qu'il concevait de pouvoir rentrer dans cette musique, quoi.
Et il devient donc un virtuose connu et reconnu. On écoute. D'islam aujourd'hui consacré à un hommage à Jalal ad-Din Weiss, Julien Jalal ad-Din Weiss et à son ensemble Al-Kindi. Pour cela, je reçois Sabine Châtel et Gérard Kurdjian. Alors, chers auditeurs de Culture d'Islam, d'habitude, dans Culture d'Islam, c'est moi qui vous parle de la musique avec mes connaissances qui sont un peu élémentaires ou un peu rudimentaires. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des spécialistes et je me tourne donc tout de suite vers Gérard Kurdjian. Dites-nous, qu'est-ce qu'on vient d'écouter là ?
On vient d'écouter la voix d'un très très grand chanteur, le Cheikh Hamza Shakur, qui nous a malheureusement quitté en 2009, qui est originaire de Damas et qui a été l'un des chanteurs privilégié qui a travaillé avec Julien Weiss et l'ensemble Al-Kindi, donc depuis sur une durée de 10 ou 15 ans. C'était une voix extraordinaire. Alors, comme beaucoup de chanteurs du monde arabe, il était munshid au départ, c'est-à-dire c'est un chanteur qui est dans la tradition du chant religieux. Il a appris le chant, évidemment, comme beaucoup de chanteurs du monde arabe, à travers la cantillation du Coran. Il était moukri, lecteur du Coran, et il a officié à la grande mosquée des Omeyyades de Damas pendant donc de très 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 nombreuses années. Il était le chef de la chorale des munshidines de la grande mosquée des Omeyyades, et donc il avait aussi une position officielle, puisque avec le cœur des munchidines de la mosquée des Omeyyades, il participait à toutes les cérémonies du calendrier liturgique musulman en Syrie. Et le morceau qu'on vient d'entendre est extrait d'un disque qui s'appelle Al-Kindi et les derviches tourneurs de Damas. Julien avait intégré cette tradition des derviches, que l'on connaît plutôt comme étant une tradition turque, de Konya, qui est donc cette fameuse confrérie qui a été fondée un petit peu à la mémoire de Jalaleddin Rumi, qui a été le nom que Julien a pris lorsqu'il s'est converti à l'islam. On peut comprendre la présence de ces derviches dans l'orchestration et dans les personnes, donc les musiciens qui ont participé à l'ensemble Al-Kindi, parce que il y a des traces de la présence de cette confrérie Mevlevia à Alep, ce qui est d'ailleurs pas très étonnant puisque Alep a fait partie de l'Empire ottoman. La Syrie était partie intégrante de l'Empire ottoman, et donc les traditions spirituelles ottomanes, il était tout à fait naturel qu'elle perdure aussi à Alep. Et donc, on a eu souvent l'occasion de voir l'ensemble Al-Kindi avec le Cheikh Hamza Shakur et des derviches faire là, donc, cette giration que l'on connaît bien, qui donnait à la musique un côté visuel extraordinaire.
Donc, un ensemble Al-Kindi qui s'est relié à quelques grands maîtres et à un certain nombre de grandes voix du monde musulman. Sabine Châtel, c'était ça un peu la marque de fabrique de l'ensemble Al-Kindi, cette capacité à, non, peut-être pas à multiplier, mais en tout cas à favoriser toujours ces rencontres, ces hybridations entre la tradition, la modernité, les différentes traditions culturelles du monde musulman.
Oui.
Sur le plan musical.
Ouais, plutôt hybridation entre différentes traditions, mais pas entre modernité et voilà, parce que justement le travail de Julien, c'était plutôt de retourner aux sources.
Oui.
Et toujours dans cette recherche d'excellence, c'était aussi d'aller plus loin que ce qu'on pouvait donner aujourd'hui dans une représentation normale si vous étiez allé en Syrie. Voilà, Julien allait chercher les excellents interprètes de chaque tradition, c'est-à-dire le meilleur flûtiste, le meilleur luthiste, le plus grand chanteur. Il s'intéressait à une tradition, par exemple, le malouf tunisien, parce qu'à un moment, il a aussi travaillé là-dessus. Il est allé chercher le meilleur interprète du malouf.
Lotfi Bouchnak. Donc c'était pas Razali et la revivification des sciences de la religion, c'était Julien Weiss et la revivification des sciences ou des arts musicaux.
C'est-à-dire qu'en réalité, l'ensemble Al-Kindi qu'il a formé est un tart. Le tart, c'est le petit ensemble instrumental de musique savante. Trois musiciens, quatre musiciens éventuellement, avec le kanoun, le oud, le ney et bien sûr la percussion, auquel se rajoute éventuellement un violon ou une vielle à archer. Et donc cet ensemble tart avait été un petit peu mis sur le côté parce que les grands orchestres arabes un peu sirupeux qui avaient été formés en copiant un peu le modèle occidental et qui ont servi de base au succès de Oum Kalthoum, d'Asman, pour la télévision, les radios, qui d'ailleurs sont des très belles musiques. Et les mariages, non, mais qui sont des très belles musiques, il faut pas les renier, étaient quand même et très éloignés de la tradition de la musique de cour, de la musique savante, qui véhicule tout un éthos culturel, historique, dont Julien se voulait être l'héritier.
Et à quoi ça correspondait, ça, Sabine Châtel, cette volonté justement de revivifier quelque chose de très pur au niveau classique?
C'était, je pense, l'idée de vraiment retrouver l'essence de ces musiques-là et de... En fait, c'est pour moi très souvent, je disais que l'ensemble Al-Kindi avait exactement la même façon de travailler qu'un ensemble de musique classique baroque occidentale. C'est-à-dire Julien repartait vers les instruments tels qu'ils devaient être à l'époque à la Renaissance ou avec cette idée de retrouver vraiment la pureté de cette musique et non pas des orgues électriques et non pas le violon qui ont été des instruments ou le violoncelle, enfin tous les instruments à cordes qui sont arrivés, bien sûr, par l'harmonisation, bien plus tard, par les Occidentaux. Donc, c'était vraiment retrouver la source de cette musique-là. Et donc, typiquement, une des premières choses, c'était de dire aux musiciens, vous enlevez costard, cravate et oui. nœud papillon, et vous habillez en costume traditionnel. Et s'il faut, on s'assiera par terre, parce que c'était comme ça qu'on s'asseyait dans les oui. diwans.
Et j'imagine etc. que c'est ce qui a fait beaucoup la singularité de l'ensemble, en rupture avec, probablement, beaucoup d'aventures musicales qui se voulaient très moderniste.
Totalement. Et aujourd'hui, c'est un petit peu une évidence pour un musicien qui va faire de la musique orientale de s'habiller en galabillé ou d'arriver en costume traditionnel. Quand Julien a créé l'ensemble en 83, c'était totalement incongru. Et pour lui, ça participait à cette démarche et à son amour de l'Orient qui était de vraiment de, voilà, de telle Laurence d'Arabie, de s'habiller en costume traditionnel. Mais bon.
Si j'avais la force, j'aimerais écrire un long article sur Julien Jalalettin Weiss, homonyme de Léopold Weiss, tout aussi converti, qui vient de mourir d'un cancer. Un cancer qui coïncide tellement avec la destruction d'Alep et de la Syrie qu'on peut se demander si les deux événements ne sont pas liés. Weiss vivait entre deux mondes, il vivait entre les mondes. Il était devenu le plus grand joueur de canon d'Orient et d'Occident, un immense savant aussi. L'ensemble Al-Kindi qu'il avait fondé a accompagné les plus grands chanteurs du monde arabe. Sabri Moudallal, Hamza Shakour ou Lofty Bouchnak. Saram l'avait présenté à Alep. Elle l'avait rencontré grâce à Nadim, qui jouait parfois avec lui. Il vivait dans un palais mamelouk perdu dans le dédale de la vieille ville, à deux pas des piles de savon et de têtes de moutons de souk, une austère façade de pierre, derrière laquelle s'ouvrait une cour enchanteresse. Les pièces d'hiver débordées d'instruments de musique, des luths, des sitars, des flûtes, de roseaux, des percussions. Ce bel homme blond me fut immédiatement antipathique. Je n'aimais ni sa prétention, ni son savoir, ni ses grands airs de sultan oriental, ni surtout l'admiration enfantine que lui portaient Nadim et Sarah, et cette mauvaise foi jalouse, me fit longtemps ignorer la beauté de cette œuvre, placée sous le signe de la rencontre, de l'échange et de l'interrogation, de la tradition, de la transmission de la musique savante, principalement religieuse. Je viens de vous lire un extrait de Boussole, le roman de Mathias Sénard, récemment récompensé par le prix Goncourt. Mathias Sénard, donc, qui nous parlait de sa rencontre et de son admiration pour Julien Jalalettin Weiss. Sabine Châtel, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ?
On vient d'entendre un duo tout à fait exceptionnel entre donc Julien Weiss au kanoun et Adib Dahir, qui est un chanteur d'Alep tout à fait remarquable et qui bon, lui aussi est malheureusement décédé en 2001. Adib Dahir, c'était une des grandes voix du monde arabe et surtout une encyclopédie vivante de la poésie classique arabe, de la poésie amoureuse. Et en fait, Julien était totalement fou de ce chanteur, qu'il n'avait uniquement entendu que par cassette. Donc je parle de là, on était en 94. Et il était allé quelquefois à Alep et il avait le désir d'y retourner pour le rencontrer. Et en fait, il y est allé en 94. Il a rencontré, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de mail. Donc il fallait aller sur place. Il a rencontré Adib Dahir dans une petite boutique où il vendait quelques cassettes. Avec ses fils qui l'aidaient et la rencontre et voilà il lui a dit voilà je suis joueur de kanoun, je suis français, je voudrais enregistrer avec vous. L'autre ne le connaissait pas, n'avait jamais entendu parler de lui. Ils ont trouvé un endroit qui était dans la vieille ville d'Alep, près des souks, dans un lieu sublime qui s'appelle le Bimaristan Arguni, qui est un ancien hôpital de fous, enfin un ancien hôpital psychiatrique, mais du 14e siècle et avec une acoustique naturelle extraordinaire. Et voilà. Et les deux hommes se sont installés, l'un au kanoun, l'autre avec son petit recueil de poésie. Et ils ont enregistré comme ça. Voilà. Ça, on a posé un micro, et c'est parti pendant 3 jours, des sessions d'enregistrement improvisées totalement. L'un improvise sur des poésies et l'autre le suit à l'oreille. Et voilà. Et ça a donné cet enregistrement qui, pour moi, est un des plus bels enregistrements de Julien. Voilà. Qui s'appelle L'art sublime du Razal. Et donc, c'est 2 volumes qui avaient été enregistrés pour Al-Sour. Qui est une maison de disques qui n'existe plus. Et voilà, mais je voudrais bien les rééditer parce que pour moi, c'est vraiment un des enregistrements les plus beaux que Julien ait fait, en fait.
Et donc là, ça avait lieu à Alep.
À Alep, oui.
Alep. C'est autre chose, Alep.
Hélas, c'était Alep.
Alep, hein, aujourd'hui, qui est, comme toute la Syrie, dans une situation tout à fait tragique. Il y a une histoire particulière de Julien Weiss avec Alep. On l'a entendu dans l'extrait lu de Mathias Sénard.
Ouais. Si je peux peut-être enchaîner là-dessus, bien parce sûr. Qu'en fait, c'est vraiment en lien, c'est-à-dire que quand Julien a fait cet enregistrement dans cet endroit, j'avais la chance d'être témoin de ces moments et de ces scènes, et il m'a dit, moi, je voudrais un endroit comme ça pour y créer un salon de musique. Et c'est à Alep que je voudrais être, et je voudrais acheter une maison ici pour pouvoir y créer ma musique, travailler, recevoir des amis, des musiciens, des voyageurs de passage. Et c'est exactement ce que raconte en fait Mathias Sénard. Parce que ce rêve-là, il l'a fait. C'est-à-dire qu'un an plus tard, il avait trouvé une maison en plein cœur de la vieille ville d'Alep, dans un quartier musulman qui était vraiment le quartier où tout le monde lui disait ne va pas acheter là-bas Julien, c'est dangereux, c'est des petites rues, c'est pas sûr pour les femmes, etc. Et qui était près de Bab Kenisrin. Et il s'est entêté, comme il a toujours fait, toujours s'entêter. On lui disait c'est pas possible, mais il disait si c'est possible. Donc il a continué et il a trouvé cette maison, il a trouvé son lieu de paradis qui était et il a créé son salon de musique. Voilà.
Un salon de musique, c'est anachronique à notre époque, un salon de musique, Gérard Kurdjian. Vous avez été dans ce salon de musique à Alep ?
Non, malheureusement non. Plusieurs fois il m'a invité, il me disait tu dois venir, et puis bon, les aléas de la vie fait que. Mais je regrette énormément de ne pas avoir eu cette chance de partager ces moments avec lui. Mais les salons de musique, bien sûr, ce sont des images un peu qui paraissent d'un autre temps. Mais
on a l'image du salon de musique de Satyajit Ray.
Oui, hein, bien sûr, c'est un peu la même chose, parce que c'est la même civilisation, c'est la même culture, c'est une culture savante, raffiné, de cours, d'aristocrate, hein, c'est une musique très aristocratique, et donc le salon de musique est le lieu de convivialité raffinée qui laisse libre cours à une approche de la vie qui est à la fois très épicurienne, hédoniste, esthète.
Et méditative
en même temps, puisque se rejoignent là toutes les strates les plus profondes de l'être, hein, parce que c'est une musique qui est à la fois une musique de raffinement esthétique, mais aussi une musique qui ouvre des portes, qui ouvre des portes.
Et alors, en parlant de portes, eh bien, on va essayer d'ouvrir un peu la porte de cette fameuse maison d'Alep, de ce fameux salon de musique, en écoutant eh bien, le maître de maison.
Ma maison est une maison absolument extravagante, parce qu'elle est à la fois petite et grande, avec des proportions insolites, puisque j'ai un plafond à 17 mètres de haut, dans le dôme, et j'ai 12 fenêtres, ça ressemble à une espèce d'église byzantine ou à une mosquée. Et j'ai un bassin en pierre au milieu de cette pièce, et j'ai un balcon tout autour qui fait comme ça fait comme un petit opéra, et tout est en pierre, en marbre et en pierre jaune ancienne, et donc c'est à mon avis, selon mes suppositions, donc une partie d'un palais mamelouk du XIVe siècle qui a été morcelé par suite d'héritage, dont j'ai une petite partie avec ce dôme et cette petite cour avec un oranger, un citronnier et un autre bassin tout en pierre. Tout ça au fond d'un labyrinthe dans la vieille ville, entouré de mosquées. C'est un vrai rêve. Et quand j'arrive, j'ouvre la porte, les tourterelles fuient les arbres. Ça fait des bruissements d'ailes. Et très souvent, je vis seul là-bas. Et quand je ne suis pas à Paris, il y a des longs moments de solitude, de travail. Et c'est assez fascinant comme atmosphère.
On est en plein conte oriental.
Hein. Et il oublie, mais il ne parle pas des muezzines. Il avait 4 ou 5 mosquées autour de lui. Ah oui. Et alors, c'était assez drôle parce que Julien passait son temps à écouter évidemment les muezzines, mais surtout à dire celui-là il chante juste, celui-là il chante faux.
Ah oui, surtout qu'aujourd'hui, dans beaucoup de villes du monde arabe, c'est vraiment la cacophonie des muezzines.
Alors, celui-là est nachaz, nachaz, il est faux.
Mais comme la tradition syrienne des muezzines est belle, malgré tout.
Elle
est bien meilleure que les muezzines maghrébins.
Malgré la tradition récente des haut-parleurs et des.
Bien sûr.
Mais c'était, oui, donc pour lui, c'était un vrai plaisir. Et c'était, il y avait une polyphonie comme ça qui se créait au moment de l'appel à la prière, qui pour lui était juste, c'était extraordinaire. C'est vrai que c'était extraordinaire.
Oui. Alors quand on pense à cette maison, qui est une maison de rêve, hein, une maison orientale telle qu'elle peut exciter les imaginaires, on pense aussi à Julien Weiss comme un personnage. Hein. Et il y avait en lui quelque chose d'un personnage de roman, d'un personnage de fiction. Je pense que c'est ça aussi qui a intéressé Mathias Sénard. Il y avait une dimension chez lui à la fois hors du temps. Il allait chercher, comme vous l'avez dit, des choses très profondes dans les traditions spirituelles. Il avait créé ce salon de musique. C'était un personnage un peu d'un notre temps, de notre siècle à certains égards, non ?
Bah c'était, oui, on l'a comparé à Laurence d'Arabie, à Corto Maltese, il y a eu plein de... Alors il disait bon que Laurence d'Arabie, oui, mais je ne suis pas dans la géopolitique comme ça, c'est pas...
Il avait les yeux bleus comme ceux de Laurence d'Arabie.
C'est un personnage de roman, c'est un peu Pierre Loti, c'est tout ce rêve d'Orient qui revient. Et il l'a vécu vraiment totalement, c'est-à-dire en effet, on a parlé de la conversion à l'islam, mais c'est vrai que c'était aussi... Oui. Ça participait à ça, pour lui c'était une façon de s'imprégner totalement de cet univers, et pour lui finalement vivre l'islam tel qu'il vivre la musique arabe et le monde arabe tel qu'il le concevait ne pouvait pas aller sans aller vers la conversion.
Oui, oui. Et ça a participé donc à l'écriture de cette légende personnelle. Gérard Kurdjian, en tant que directeur artistique du Festival de Fès, quand vous l'accueillez, vous accueillez un personnage, justement, comme ça, un peu hors norme, un peu...
Non, j'accueillais un ami, parce que moi j'avais une relation avec lui extrêmement directe, extrêmement spontanée, et c'est ça qu'on appréciait l'un et l'autre, parce que c'est vrai que Julien a été perçu par beaucoup de gens comme justement quelqu'un de grande stature, parce que, ne confondons pas, il a une stature exceptionnelle, mais il avait tendance effectivement à en jouer un petit peu parce qu'il avait, il s'exprimait très bien, il avait un regard très droit, très profond, il avait un humour caustique terrible, et donc c'est vrai que pour le commun des mortels, il impressionnait. Voilà. Alors, mais on n'avait pas la même relation puisqu'on se connaissait depuis très très longtemps, mais je suis extrêmement sensible à cette dimension-là, et d'ailleurs, cette dimension-là, on la sent... Il a fait un disque en 2001 qui s'appelle Les Croisades, vu à travers le regard de l'Orient. Et lorsqu'on regarde le livret de ce CD, qui est très beau, hein, avec des textes de poètes, d'historiens célèbres, des textes de lui aussi, on voit que ce qui est dessiné dans les textes de ce livret, c'est tout un monde. Le monde de cet Orient, à la fois des croisades et à la fois des chevaliers, des guerriers, des écrivains, des poètes, des artistes. des maîtres spirituels, où se côtoient Saladin, le crack des Templiers, des Ibn Arabi, Halaj, et tout ça dessine un univers qui est en réalité le creuset, une sorte de matrice dans laquelle Julien a puisé son inspiration et dans laquelle il s'inscrit comme un des personnages de ce vaste théâtre historique.
Avec la capacité de restituer tout cela dans une musique.
Absolument, absolument.
On écoute. Parfum transmis par cette musique. Gérard Kurdjian, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Alors, on vient d'écouter un chant extrait du Salon de musique d'Alep avec un très très grand chanteur, Sabri Moudalal, qui est décédé, qui est un monsieur très 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 âgé, hein, puisqu'il était né en 1918, il est décédé en 2006. Et Sabri Moudalal était quelqu'un qui avait donc une science extraordinaire du Mouacha, donc qui est le poème, cette forme poétique qui est donc née dans l'Andalousie arabo-musulmane et qui s'est répandue aussi donc jusqu'en Orient. Et ce Mouacha existe sous sa forme profane, oui, hein, dans la musique arabo-andalouse, mais il existe aussi sous sa forme religieuse, qu'on appelle le Mouacha Dini, le Mouacha religieux. Et donc Sabri Moudalal maîtrisait tout à fait ces deux formes. Et là, le chant qu'il chantait s'appelait « Ilahi ya Rahman ya Basir »,« Ô Dieu miséricordieux et omniscient », donc avec l'ensemble Al-Kindi, tel qu'on le connaît, avec les compagnons de route, dont on n'a pas cité les noms d'ailleurs, mais c'est peut-être bien
de le dire,
piliers qui sont depuis l'origine, Mohamed Kadri Delal, luthiste au oud, un maître du loud, virtuose originaire d'Alep, Ziad Kadi Amin de Damas, oui, qui est aussi un maître du ney, la flûte de roseau, Adel Shamseddin, bien sûr, le d'origine égyptienne, qui habite en France depuis de très très longues années, qui est un maître du rik, le petit tambourin à cymbalette, et qui est l'instrument qui structure rythmiquement l'ensemble. Et au gré des productions, donc Julien s'entourait aussi d'autres chanteurs, mais on a avec ce noyau de musiciens ce qui porte l'ensemble Al-Kindi, qui a porté l'ensemble Al-Kindi durant des années.
Alors une question très simple, depuis la disparition de Julien Weiss, donc je rappelle qu'il s'est éteint en janvier 2015, qu'est devenu l'ensemble Al-Kindi ?
Ben, l'ensemble Al-Kindi, on a vécu plusieurs drames, puisqu'on vit plusieurs drames, puisque déjà le leader, directeur artistique, vraiment la source de ce groupe, est décédé l'année dernière. Et puis après, on vit un autre drame, qui est que la plupart des musiciens vivaient en Syrie. Donc, oui. Alors moi, j'ai des contacts toujours, avec les musiciens qui sont à Damas. On a continué à les faire venir quelques fois. Mais sinon, il y avait beaucoup de musiciens qui étaient à Alep. Alors, quelques-uns ont pu partir. Donc, Kadri Dalal, par exemple, maintenant est réfugié à Alexandrie. Certains commencent à arriver, mais la plupart sont quand même à Alep, toujours. Omar Sarmini, qu'on vient d'entendre dans l'enregistrement, en fait, il y avait Sabri Moudalal, qui était donc un vieux monsieur déjà à l'époque, mais il y avait aussi, Julien avait fait venir la nouvelle génération des chanteurs classiques, donc c'est Omar Sarmini, avec qui il a enregistré par la suite le disque sur les croisades, mais il y a eu d'autres enregistrements. Omar Sarmini travaille toujours à Alep, il m'envoie régulièrement des messages, WhatsApp, Facebook, enfin tout ça, c'est très étonnant et en même temps il est toujours là-bas.
Il est en situation de jouer là-bas et de se produire.
Oui, alors moi il me dit tout le temps qu'il peut venir pour faire des concerts, mais bon, moi je vois. Enfin là c'est extrêmement compliqué pour les faire voyager d'Alep. Alors après les autres sont à Damas, donc voilà, donc aujourd'hui on est dans une situation qui est dramatique à tout niveau. Donc potentiellement, on peut toujours faire des concerts, on en fait de temps en temps quand on peut, mais c'est extrêmement compliqué, quoi.
Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur ce qui a été un fil directeur de cette émission, à savoir la mise en évidence, la mise en lumière de l'exigence musicale de Julien Weiss. Dans un entretien, c'était pour le site Agoravox en 2008, il parlait de sa façon de créer. Et je voudrais donc lire ce qu'il disait et puis vous faire réagir là-dessus. Il dit « En général, ça fonctionne de cette façon-là. Je crée, au sens où je mets au point un concept. Puis je mobilise les gens, on le crée quelque part et on le fait tourner. Par exemple, les concepts, les croisades sous le regard de l'Orient, vous l'avez évoqué, Gérard Kurdjian, tout à l'heure, les derviches de Damas, la trans-soufie d'Alep, l'art du Ghazal, le makam de Bagdad, le maalouf de Tunisie, le salon de musique d'Alep, les parfums ottomans ou la musique arabo-ottomane. Donc il y a cette exigence d'abord intellectuelle qui va se traduire ensuite en expérience musicale ou en expérimentation musicale. Gérard Kurdjian, vous êtes familier de ce type de
fonctionnement ? Oui, tout à fait. Ça me semble très bien. Et à mon avis, c'est un apport extrêmement novateur parce que, pour autant que je sache, cette idée de créer une musique autour d'un concept, autour d'une thématique qui peut prendre le nom d'un concept, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau dans l'univers du monde arabe, parce que même les plus grands chanteurs, les plus grands instrumentistes ont enregistré des chansons. Ont enregistré des solos, des improvisations qui sont sublimes, parce qu'il y a évidemment des maîtres immenses, mais cette faculté de rassembler autour d'une thématique générale, générique, des musiques et des musiciens, c'est quelque chose qui est très novateur, en tous les cas à l'époque où Julien l'a fait, et qui en plus dans le champ de la musique arabe est tout à fait nouveau, parce que je me demande d'ailleurs si ce n'est pas dû à sa fonction, sa position transculturelle, à cheval entre plusieurs mondes et entre plusieurs traditions de passeur.
Sabine Châtel, sur cette exigence musicale et puis cet art d'être un passeur et de dépasser les frontières, ou d'ouvrir les frontières.
Oui, totalement. Lui, c'est vrai que ce qu'on lui reconnaissait et ce qu'il savait être, c'est que justement, du fait qu'il n'appartenait à aucune nation arabe par essence, il pouvait s'inspirer en effet de la tradition syrienne, mais et qu'elle soit de Damas ou d'Alep, parce que même là il y avait des fois des querelles entre les deux traditions, ou alors à les puiser dans l'instrumentarium turc ou dans l'instrumentarium d'Azerbaïdjan ou d'Iran, et lui faisait beaucoup de recherches, c'est-à-dire c'est quand même un homme qui était extrêmement érudit au-delà de la musique, donc il lisait énormément.
Il était en contact avec Düring notamment, non ?
Avec Jean Düring, tous les musicologues, que ce soit Christian Poré à l'époque.
Les grands ethnomusicologues.
Ethnomusicologues et vraiment tous les. Il y avait un des grands musicologues qui est lui aussi disparu il y a longtemps, qui s'appelait Bernard Moussali, qui était. Alors lui, c'était une science vivante qui a écrit beaucoup, beaucoup de livrets dans que l'on retrouve dans les disques d'Al-Kindi, qui était libanais, qui était absolument fasciné par Julien et qui a écrit des livrets extraordinaires sur lui, mais enfin sur les musiques sur lesquelles Julien travaillait. Et donc voilà, et donc c'est vrai que Julien allait toujours au-delà de ce qu'on pouvait lui proposer, c'est-à-dire il avait... et donc en effet cette idée, enfin ce que vous avez donné là de travailler sur un concept et de d'élaborer à partir de ça, c'est exactement comme ça qu'il travaillait.
Et quand il initiait des rencontres entre des cultures musicales, il se méfiait beaucoup de l'expérimentation hasardeuse, et dans l'interview que je vous ai citée tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la sévérité qu'il manifestait. Je vais vous lire un extrait pour ce type de rencontre hasardeuse. Il dit: mon approche est quasi scientifique, je construis quelque chose en exigeant que ce soit très cohérent. vous savez, il y a beaucoup trop de rencontres, entre guillemets, qui sont complètement bidons. Par exemple, Yehudi Menuhin et la musique indienne, c'est à mourir de rire, c'est complètement superficiel. Il y a eu des milliards comme ça de pseudo-fusions dépourvues d'un vrai travail de recherche, etc., etc. Bon, il était très sévère, il expliquait ou il justifiait cette sévérité en disant c'est désespérant parce que quand on a un potentiel intellectuel et du temps, on doit étudier et construire quelque chose.
Tout à fait, d'ailleurs ce regard sévère qu'il portait sur un certain nombre de pratiques musicales lui valait d'être considéré avec beaucoup d'agressivité parfois, parce qu'il avait une propension à remettre les choses dans le droit fil de ce qu'il considérait comme exact sur le plan historique et musical, et effectivement c'était très courageux de sa part parce que il n'était pas à l'origine du sérail.
Et oui, Sabine Châtel.
Oui, je crois qu'il y avait aussi dans cette idée d'exigence qu'il avait, c'est qu'il avait aussi coutume de dire que la vie était trop courte, et d'ailleurs, il ne l'a pas prouvé. Et donc, il n'avait pas le temps de tout faire. Et déjà, pour lui, travailler uniquement sur les répertoires classiques de musique arabe, et en tout cas, dans ce qu'il avait envie de faire, c'était déjà beaucoup. Et faire en plus des rencontres, des fusions, des choses comme ça, en gros, il n'avait pas le temps. Quoi. Mais c'était, et de toute façon, ça l'intéressait pas. Il préférait rester sur son sujet uniquement. Quoi. Enfin, qui était...
L'exigence au service de l'excellence.
C'est Mahboubi Kassad Nakadi, ma bien-aimée cherche à m'importuner. Nous avons là un mouacha.
On est dans le mélange de l'érotique et du mystique, c'est classique tout ça.
Absolument, absolument. Cette pièce est extraite du CD Les Croisades, dans le livret duquel il y a tout un paragraphe très intéressant sur les figures mystiques. Et dans ces figures mystiques et dans ces figures de la transgression mystico-spirituelle, il y a bien sûr Rabia El Adawiya, la figure féminine, Halaj, Sohrawardi, Ibn Arabi, Abu Nawas, le grand poète qui
dont on a beaucoup parlé il y a quelque temps dans cette émission, libertin,
absolument hédoniste,
anticonformiste, subversif à tous les égards.
Ibn Farid avec l'éloge du vin. Uh-huh. Donc on a toutes ces figures qui dessinent un paysage qui est un paysage esthétique, raffiné, transgressif et qui dépasse les frontières d'une certaine façon.
On l'a pas beaucoup évoqué, on a parlé de la conversion à l'islam, on a parlé du fait que Jalal ad-Din, c'est évidemment la reprise du prénom, hein, du nom du grand mystique soufi
Rumi,
hein, le début du XIIIe siècle. Quel était le rapport de Julien Weiss à la mystique et au soufisme, Sabine Châtel?
Bah c'est toujours à travers la musique, je pense qu'il avait cette idée sur le soufisme. Pour lui, il avait une grande passion pour les confréries, où il adorait aller, parce qu'en plus il y en avait plein autour de chez lui qui étaient absolument incroyables, les Naqshbandis. Et il y avait, je pense qu'il retrouvait dans la pratique soufie telle qu'elle se fait, aussi la cesse que lui s'imposait quotidiennement à travers son instrument. Et je pense que vraiment, il y avait quelque chose qu'il... Parce que c'était mystique, enfin, je veux dire, quand il travaillait, Julien pouvait travailler 7-8 heures par jour au canon, c'est... Je veux dire, même physiquement, c'est énorme. Donc je pense qu'il était... voilà. Et puis, il y a cet effet aussi d'imaginaire, dans lequel il se laissait porter, qui était l'imaginaire du soufisme.
Donc aux frontières de la musique, de la mystique, de l'expérience spirituelle.
Et de l'expérience esthétique.
Et de l'expérience esthétique.
Absolument, parce que c'était d'abord un esthète, pour moi, qu'il est connu de manière assez proche. C'était un esthète extrêmement raffiné et qui vivait... son rapport au soufisme et d'une manière plus générale à l'islam comme quelque chose d'extrêmement raffiné, profond et esthétique, pas du tout comme quelque chose de rigoureux, bien que la dimension du travail quotidien, mais lorsqu'on est un musicien et qu'on travaille 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, ce n'est pas du tout un poids, au contraire.
Donc esthète, ascète, ascète, esthète, et puis cette fibre mystique qui va s'exprimer aussi dans le dernier morceau que vous nous proposez, je dis vous parce que je m'adresse à tous les deux, c'est vous qui m'avez vraiment aujourd'hui, et je vous en remercie beaucoup, proposer ces morceaux qui nous a été donné d'écouter. Alors ce dernier morceau, de quoi s'agit-il ?
Alors là aussi, on est dans le concept, puisque Julien avait l'idée de créer en forme de syncrétisme le Stabat Mater Dolorosa, qui est hommage, donc le sous-titre c'est Hommage chrétien et musulman à Marie. Alors, je suis pas une spécialiste, mais Marie est un personnage que l'on retrouve dans l'islam et dans la chrétienté. Et donc, en fait, il a réuni, mais vraiment réuni pour ce concept, pour cette création, une chorale byzantine d'Athènes, qui est le chœur Tropos, une chorale de Mounchidin d'Alep, dirigée par le Cheikh Harbouche, qui était donc un des grands chanteurs soufis d'Alep, des derviches tourneurs de Turquie et de Syrie. Et puis évidemment des musiciens, alors ces musiciens habituels d'Alep, de Damas, mais également d'Istanbul, un musicien azéri, un joueur de tabla,
prodigieux.
Et ça a donné lieu à une dernière création. Alors malheureusement, ça n'a jamais pu être enregistré. Donc là, on a un enregistrement qui est un enregistrement de concert, mais on n'a jamais réussi à fixer vraiment ça sur un CD. Et voilà, il y a eu une grande création qui a été faite au Festival de Beit Eddin au Liban en 2011.
Et à Fès.
Et à Fès, pardon, ce spectacle
à Fès.
Gérard Claudian.
Oui, pour conclure, il faut dire aussi que l'intérêt de Julien dans cette rencontre entre la tradition byzantine et la tradition arabo-musulmane est d'abord musical aussi, puisqu'il y a dans la tradition du chant byzantin une musique modale, et les chœurs byzantins travaillent sur des notes tenues qui s'appellent lisone, qui est une sorte de bourdon qui donne une assise mélodico-harmonique extrêmement puissante et profonde, qui est une sorte de prière psalmodiée, sur laquelle il voulait donc faire intervenir la tradition du dikre et la tradition de l'improvisation vocale, du mawal, des chanteurs.
De l'invocation des soufis.
Voilà, l'invocation des soufis vient se surimposer d'une certaine façon à la tradition byzantine et à la tradition de ce chant qui est une sorte de psalmodie.
Si je peux rajouter une chose, ce qui est par exemple incroyable aussi, c'est que Julien a réussi à convaincre par exemple les chœurs d'Athènes, enfin les chœurs orthodoxes, de chanter avec des instruments, avec d'autres, alors que normalement ils chantent rigoureusement a cappella. Et ça, c'était la force de Julien aussi, une force de conviction incroyable.
Merci beaucoup Sabine Châtel.
Mais avec plaisir.
Merci beaucoup Gérard Curgeon.
Merci.
C'était Culture d'Islam par Adeno Bidar. Aujourd'hui, on a conçu ensemble avec Sabine Châtel et Gérard Curgeon une émission spéciale consacrée à Julien Jalaluddin Weiss, à sa mémoire, à son œuvre. Vous retrouverez toutes les références des musiques écoutées aujourd'hui, et elles ont été nombreuses, sur le site franceculture.fr. Je remercie pour la préparation et la réalisation de cette émission mon attaché de production Dominique Compétissard, à la prise de son Bruno Mourlan et à la réalisation Franck Lilin. Dans quelques instants sur France Culture, vous retrouverez Louise Touré et sa rue des écoles.